Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. On parle de Herschel, satellite scientifique qui sera lancé prochainement en compagnie des membres de l'équipe qui participent depuis de nombreuses années à cette expérience. Marc Sauvage, Vincent Minier. Finalement, Marc Sauvage, le lancement d'un satellite, c'est le début d'une aventure, mais c'est surtout la fin d'une grande histoire qui souvent se compte en décennies. Hein.
Oui, dans le cas d'Herschel, je crois que d'abord Herschel s'appelait First à l'époque où on en parlait. C'est une histoire, on est en 2008, c'est une histoire qui a plus de 20 ans déjà.
Ouais.
À l'origine, le satellite, ça devait être un miroir de 15 mètres de diamètre pour faire de la spectroscopie très haute résolution dans le submillimétrique. Et aujourd'hui, c'est un miroir de 3,50 m, il y a une certaine érosion avec le temps, et un satellite qui fera essentiellement de l'imagerie dans le submillimétrique, de la spectroscopie aussi, mais il y a une grande évolution du concept entre l'idée originelle et aujourd'hui.
Il y a un inventeur d'Herschel, il y a quelqu'un à qui on peut attribuer la paternité de l'idée, ou je dirais c'est la communauté?
Moi, je crois que c'est vraiment une idée communautaire. En l'occurrence, Herschel, c'est le fils spirituel de la communauté, justement, de ce qu'on appelle la spectroscopie hétérodyne. Donc, des gens qui faisaient du milieu interstellaire, de essayer de comprendre de quoi le gaz était composé. Et puis, sur laquelle se sont greffés les héritiers des expériences IRAS, ISO, donc d'imagerie, cette fois-ci, du milieu interstellaire et des galaxies. Au point même qu'aujourd'hui, les choses se sont un peu inversées.
C'est long, hein, 20 ans, ou même 25 ans, les années 80, donc ça veut dire que la technologie évolue, donc les questions sont peut-être plus toujours nécessairement les mêmes. Vous avez perdu en taille, mais vous avez peut-être gagné aussi en qualité de détection, par exemple.
Ce qui est vrai, c'est qu'au moment où on y pense, enfin, de toute façon, dans toutes ces expériences, le moment où on pense à l'expérience, en général, la technologie pour atteindre les objectifs n'existe pas. Sur une période de 20 ans, 25 ans, comme ici, il faut voir qu'il y a, je dirais, peut-être 5 à 10 ans de lobbying pour faire sélectionner le principe même de l'expérience. Donc, c'est pas que du lobbying, c'est de l'organisation des communautés scientifiques autour de l'idée. Et les instruments eux-mêmes, ils ont une histoire qui est de l'ordre de la dizaine d'années. Donc une histoire de développement qui est de l'ordre de la dizaine d'années. Donc il y a une première phase dans laquelle on construit le besoin scientifique, une deuxième dans laquelle le besoin scientifique étant exprimé, on fait les choix technologiques. Et c'est clair qu'on arrive, comme toujours dans le spatial, à lancer aujourd'hui des objets qui sont un petit peu dépassés en termes de technologie, mais c'est la lenteur nécessaire d'un programme spatial.
Les ingrédients de la recette pour réussir un télescope spatial, c'est quoi? C'est vous me parliez d'idées, de lobbying, de techniciens, de scientifiques. Enfin, c'est la même équipe qui travaille pendant des années ou
non? Il y a beaucoup de transformations sur une période comme ça. C'est assez intéressant de voir ça dans l'évolution d'un projet, parce que je pense que quand Herschel va voler, il y aura pas beaucoup de gens présent qui était là au moment où s'échangeaient les premières idées sur ce type de télescope. Et moi, par exemple, je suis là que depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années. Et les idées scientifiques évoluent, les préférences, les priorités évoluent. Donc il y a une rigidité du développement d'un programme spatial, parce que c'est des coûts énormes et c'est des structures énormes. Et à l'intérieur de cette rigidité, il reste quand même une certaine souplesse de réorganisation des thématiques qui est tout de même bienvenue.
Combien ça coûte Herschel?
Alors Herschel, si on prend la totalité du satellite, c'est environ 1 milliard d'euros. Donc c'est le programme de développement des instruments, de développement de la plateforme et le lancement compris.
Donc lancé par Ariane.
C'est lancé par Ariane 5 et ça part en fait, ça va être un lancement un peu original parce qu'on part en tandem avec un autre satellite qui s'appelle Planck, dont l'objectif lui est de mesurer le fond cosmologique. On va se séparer quelque part.
Bons amis,
on va espérer qu'on se sépare bons amis. Enfin, en tout cas, si ça se passe mal, Herschel est au-dessus de Planck, donc on devrait gagner. Et on va se séparer pas très loin de la Terre, et on va suivre des destins, des chemins à peu près parallèles pour aller sur un point qui s'appelle le point de Lagrange L2. Alors, Monsieur Lagrange est celui qui a établi que dans un système comme le système Terre-Soleil, il y a des points particulier où les forces d'attraction de la Terre et du Soleil s'équilibrent. Il y en a un qui est évident, qui est entre la Terre et le Soleil. Il y a un point où on est autant attiré par la Terre que par le Soleil. Et il y en a un aussi de l'autre côté, sur le même axe, mais de l'autre côté de la Terre, qui est L2, où là, c'est l'équilibre entre la force centrifuge et l'attraction combinée de la Terre et du Soleil. Donc on se met là, on est tranquille, on a le Soleil et la Terre toujours dans le dos, donc c'est très bien du point de vue des observations et de l'énergie, parce qu'on marche à l'énergie solaire. Et on va rester là pour 4 ans à peu près.
4 ans de durée de vie. Hein. Il faut garder suffisamment de gaz pour refroidir l'instrument.
C'est un satellite qui fonctionne, qui est refroidi par hélium. Donc la durée de vie sera de façon ultime déterminée par à quel degré de remplissage du cryostat on arrive au moment du lancement, ce que personne ne peut dire aujourd'hui.
Alors ça c'est la machine. Alors donc il y a aussi l'organisation. On peut se poser la question de savoir comment Marc Sauvage, le CEA, est arrivé dans cette aventure là.
Alors le CEA c'est un grand organisme dans lequel le service d'astrophysique est un petit service. Et il y a aussi des laboratoires qui travaillent sur des problèmes de détection en général. Et le dit laboratoire en question, c'est le LETI à Grenoble. Et on avait travaillé avec eux pour la réalisation d'un détecteur pour le satellite ISO, qui était un détecteur infrarouge moyen. Et c'était des choses qu'ils avaient considérées comme intéressantes. Il y a d'ailleurs la personne qui avait travaillé sur la mise au point de ce détecteur, qui était au service d'astrophysique, qui était partie au LETI. Donc c'est souvent des histoires de personnes qui font que les choses fonctionnent. Ils avaient démarré des filières de construction de détecteurs de type bolométrique, et la sélection de Herschel comme expérience que l'Agence spatiale européenne voulait faire voler a donné une espèce d'opportunité de lancer un développement. Eux, ils avaient des idées de mise en place, de récupération de certains types de circuits de lecture, enfin des idées de technologie, et à ce moment-là, il leur manquait finalement peut-être une opportunité. Et l'astronomie, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien comme ça. C'est-à-dire que l'astronomie fournit des opportunités de lancer certaines branches de développement technologique qu'on appelle recherche et développement. Bon, alors c'est toujours compliqué en l'occurrence là de parce qu'on travaillait avec un laboratoire qui est à mi-chemin entre la recherche et l'industrie, et le temps de l'astronomie n'a rien à voir avec le temps de l'industrie.
Ça a été compliqué à fabriquer ces fameux bolomètres.
Alors les bolomètres en question, c'est très très compliqué à fabriquer.
Pourquoi ?
C'est compliqué parce que ce qu'on cherche à faire, nous, c'est donc des matrices. Donc on prend des plaques de silicium et on va graver à l'intérieur, on va creuser ces plaques de silicium pour créer des pixels. En fait, on va creuser des trous dans ces plaques de silicium, mais on va pas complètement creuser les trous. Il faut que à l'intérieur de chacun de ces trous, il reste donc la plaque de silicium fait une cinquantaine de microns d'épaisseur, et on cherche à graver à l'intérieur de chacun de ces trous une petite grille dont chacune des petites poutres fait environ quelques microns d'épaisseur. C'est cette grille qui va absorber le rayonnement électromagnétique. Donc on vient pas la coller à l'intérieur de la plaque. On prend une plaque complètement pleine et on va graver sur cette plaque des structures qui font de l'ordre du micron. Donc c'est des problèmes d'attaque chimique, physique, de gravure, de circuit. Puis après, une fois que ça s'est fait, ça c'est une première chose, mais il va falloir mettre sur ce silicium des circuits électriques, ceux qui vont nous servir à la détection. Et puis après, il va falloir faire ce qu'on appelle une hybridation, c'est-à-dire coller cette plaque de silicium avec une autre plaque qui, elle, contient un circuit de lecture. Donc c'est des manipulations, il y en a environ en fait une centaine d'étapes pour la réalisation de chacune de ces matrices. C'est des manipulations extrêmement compliquées, et on a eu des histoires, enfin c'était une vraie montagne russe, le développement de ce détecteur.
Combien d'années?
Il y a environ, de développement, il me semble qu'il y a environ 5 ans on y pense, et puis on a les détecteurs qui vont voler sur Herschel, mais on s'est pas arrêté là, en fait, parce que ça fonctionnait quand même plutôt bien, donc c'était assez prometteur comme technologie. C'était d'ailleurs une première, c'était la première fois qu'on faisait des caméras de bolomètre, et donc on est en train de l'adapter pour le sol en faisant des modifications. Donc c'est une filière finalement qui a été créée, une filière de détecteurs qu'on cherche à faire continuer à vivre en lui trouvant d'autres opportunités.
À quoi peuvent servir ces caméras bolomètres en dehors de l'astronomie? Est-ce qu'il y a des utilisations envisagées aujourd'hui?
Celles-là même, elles sont faites pour détecter des rayonnements de type astronomique, donc fonctionner à des températures très très basses. Mais la bolométrie, enfin ce type de détecteur et ce type de rayonnement peut servir dans des applications, cette fois-ci, qui sont plus de l'ordre de la sécurité, pour avoir de la détection à distance de... parce que le rayonnement submillimétrique est un rayonnement qui passe à travers beaucoup de matériaux, donc on peut s'en servir dans tout ce qui est, je dirais, la mesure à distance. Alors, il y a des contrats qui sont en train de se négocier pour mettre de ce type de caméra dans tout ce qui est la sécurité des personnes, des aéroports, des choses comme ça. C'est le principe, et c'est le type de technologies qui ont été utilisées, mais adaptées pour fonctionner dans des conditions qui sont complètement différentes. Dans l'espace, nous, on cherche à fonctionner avec aussi peu de rayonnement ambiant que possible. Sur Terre, il faut s'adapter avec un maximum de rayonnement ambiant.
C'est contraint, hein, le territoire spatial. C'est-à-dire que ce qui vous est demandé pour envoyer du matériel dans l'espace, c'est quand même extraordinairement contraint. Peu de bruit, beaucoup de froid, beaucoup d'agressions extérieures.
C'est contraint aussi parce qu'il faut arriver à faire tout ça avec très peu d'énergie. Parce que on n'emmène pas une prise de courant et une centrale nucléaire accrochée. Il faut faire ça à l'énergie solaire. Donc c'est des choses qui doivent consommer très très peu d'énergie, qui doivent en dissiper aussi très peu, parce que vous l'avez dit, on doit fonctionner dans le froid le plus fort possible. Donc il faut certainement pas qu'on mette des circuits électriques qui chauffent à cet endroit-là. Donc il y a des contraintes de réalisation qui sont vraiment extraordinaires et qui font justement qu'on a ces temps de développement très très longs, parce qu'on passe par, on doit passer par des instruments comme ceux qui volent. On a construit au moins trois versions pour arriver à petit à petit passer les obstacles pratiques de réalisation de ces choses-là. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, le lancement, ça consistera à une certaine fin pour toute une partie des équipes. C'est d'ailleurs le jour où on verra que tous ces efforts ont payé.
Il y a de la compétition dans cette affaire-là. Il y a une bagarre avec, on dit toujours les Américains ou d'autres, les Anglais. Qui sont les compétiteurs?
Il y a de la compétition. En fait, il n'y a pas énormément de laboratoires qui sont capables de faire des détecteurs pour le spatial, mais il y en a quand même plus qu'il n'y a d'opportunités. Donc il y a de la compétition, et d'ailleurs dans l'histoire de la participation du CEA à Herschel, c'est une histoire dans laquelle la compétition a eu un rôle important, puisqu'à l'origine on devait participer à un des instruments qui s'appelle Spire, qui avait choisi une technique assez originale pour construire son consortium, c'est qu'il avait pris trois laboratoires susceptibles de lui faire des détecteurs. Donc à l'intérieur même du groupe pour faire l'instrument, il y avait de la compétition quant à savoir qui allait être sélectionné. Donc c'était une ambiance assez saine, on va dire. Et il se trouve que nous n'avons pas été sélectionnés pour des raisons absolument... c'était une mauvaise période pour le CEA. Donc il y a vraiment une compétition qui est sévère, pas toujours juste suivant à qui on parle. Et donc il y a eu une période, je dirais une période assez dépressive suite à cet échec de cette technologie, qui a heureusement débouché sur quelque chose qu'on pouvait pas prévoir, c'est-à-dire que on avait été rejeté de ce consortium, enfin on n'avait pas été sélectionné sur des critères de performance, et il s'avère que les performances qu'on avait atteintes malgré tout étaient suffisantes pour fonctionner dans l'autre instrument de Herschel, qui lui à ce moment-là même commençait à réaliser qu'il aurait des problèmes à se construire avec les choix qu'il avait faits. Donc il y a eu une période extraordinairement effervescente de dépression parce qu'on n'était pas sélectionné sur l'un, mais d'anticipation que peut-être on pouvait être sélectionné sur l'autre, qui lui devait refaire tous ses plans en même temps pour arriver à installer un nouveau type de détecteur. Et le fait est que finalement, c'était une histoire qui avait mal démarré, et aujourd'hui, finalement, l'instrument sur lequel on est et notre détecteur, c'est celui qui va le plus fonctionner pendant toute la vie d'Herschel. Donc pour nous, il y a eu un très très bas, mais ça nous a amené très très haut.
L'instrument est prêt, il devrait partir, être positionné sur le point de Lagrange en orbite nominale, comme on dit. L'équipe scientifique est prête, Vincent Minier?
Alors, l'équipe scientifique, elle a beaucoup travaillé, enfin je veux dire les équipes scientifiques, parce que Herschel, il y a un certain nombre de thématiques scientifiques qui vont être approfondies. On a la formation stellaire, le milieu interstellaire, les galaxies lointaines. Donc il y a un certain nombre d'équipes organisées soit sous forme de consortia, soit de groupes en fonction des instruments sur Herschel, à préparer ce qu'on appelle dans notre jargon des proposals, c'est-à-dire des demandes de temps d'observation, à la fois pour le temps garanti, le CEA étant constructeur d'un instrument sur Herschel, en contrepartie, nous avons du temps garanti qui a été distribué à un certain nombre de scientifiques qui, après, l'ont redistribué à leurs équipes, des équipes internationales généralement, et des programmes scientifiques ont été montés. Donc c'est ce qu'on appelle les programmes de temps garanti. Et également, il y a eu un appel de l'Agence spatiale européenne pour les programmes en temps ouvert, donc cette fois-ci ouvert à la communauté dans son ensemble. Et là, une nouvelle fois, nos équipes ont répondu. Aujourd'hui, sans me tromper, je crois que nos équipes sont à la tête de 3 grands programmes en tant que coordinateur au niveau du temps garanti. Ils sont à la tête d'un grand programme en temps de temps ouvert sur les galaxies lointaines, mais finalement l'ensemble des astronomes submillimétriques au CEA participent à tous les projets dans les 3 thématiques de la formation stellaire aux grandes galaxies.
Il y a du travail, mais est-ce qu'il y a des forces, il y aura les astronomes, les post-docs, etc. Ça veut dire beaucoup de, le sujet est large, hein, beaucoup de moyens aussi pour dépouiller, pour suivre.
C'est une question difficile, peut-être pas très politiquement correcte à y répondre. On a des forces en termes de permanents. C'est-à-dire qu'évidemment, le CEA à un certain nombre de personnels, soit en CDI, CEA, soit également des personnels qui viennent de nos labos dans l'Intimix, donc CNRS. Donc nous avons des permanents. Nous pensons également demander un certain nombre de doctorants de faire des thèses sur les 3 premières années d'exploitation scientifique d'Herschel. Et évidemment, on a besoin, j'irais pratiquement d'une armée, ce qu'on appelle les post-doctorants, c'est-à-dire des contrats de 2 ou 3 ans qui vont dépouiller, traiter et publier les données. Aujourd'hui, il est évidemment relativement difficile en France et en Europe d'avoir des post-docs associés aux missions spatiales. Alors peut-être Marc a...
C'est une complexité de l'exercice qu'on a à faire. On est dans un système qui est... Enfin, le système, ce qui a été mis en place pour Herschel, on est sur une espèce de transition entre un système, notre système de recherche français tel qu'il a toujours existé, et puis un modèle qui est essentiellement le modèle américain de fonctionnement qui dans les faits fonctionne effectivement au vu des résultats. Et on se trouve effectivement, nous, en pratique du point de vue de la constitution des équipes, à avoir une difficulté qui est que, eh bien, quand on construit un projet de type Herschel avec des grands programmes qui vont produire de grandes quantités d'observations et qu'on se fixe comme objectif d'analyser ça et de redonner ces observations à la communauté dans son ensemble dans un délai qui est relativement court, hein, qui est la règle qui est présente sur Herschel, eh bien, ça nécessite aussi de mettre en place des structures pour faire venir les équipes qui vont faire ça. Et on n'a pas encore réalisé cette transition. On a importé un modèle d'exploitation qui fonctionne bien, mais on n'a pas complètement fait cette importation. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont plus ou moins des responsabilités à l'intérieur de Herschel, on est en train de taper un peu à toutes les portes, de voir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Il y a une transition qui se fait et bon... elle n'est pas complète encore.
Maintenant qu'un projet se termine, en tout cas avant de rejoindre l'espace, généralement on pense à la suite. Il y aura une suite à Herschel. Vous pensez, ça vous a donné à la fois une expérience, une envie de continuer. Vous vous dites, ah, maintenant il faudrait partir sur quelque chose qui permettrait de... Il y aura un successeur ?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore un successeur qui soit défini, au sens où on sait que on peut dire dans tant d'années... tel projet prendra la suite de la science Herschel. Il y a des projets qui ne sont pas dans le même domaine et qui vont travailler à des problématiques que Herschel aura pas mal mises en place. On peut parler du successeur du télescope spatial Hubble qui va travailler dans certains domaines sur des questions que Herschel va contribuer à discuter. Il y a le projet ALMA, qui est cet interféromètre au Chili, qui va fonctionner à peu près en même temps, puis continuer plus longtemps qu'Herschel parce qu'il est au sol, sur lequel il va pouvoir avoir des études en commun. c'est-à-dire des objets qui ont été mis à jour par Herschel peuvent être étudiés en précisément par ALMA. Et puis il y a un projet dont on parle, qu'on est en train d'essayer de voir comment l'Europe pourrait participer, qui est un projet japonais qui s'appelle SPICA. Qui est essentiellement le même télescope qu'Herschel, mais contrairement à Herschel qui met son télescope dehors au chaud de l'espace interstellaire, le télescope est refroidi. Donc il n'y a pas de, là il y a un gain sur le fait que l'émission qu'on collecte ne contient plus que l'émission du ciel. Donc il y a un gain potentiel en sensibilité. Mais ça c'est un projet qui n'a pas encore une fenêtre de tir bien précise, ni la participation européenne n'est pas encore complètement arrêtée.
C'est un projet quand même discuté à l'Agence spatiale européenne en collaboration avec l'Agence spatiale japonaise. Donc c'est un projet qui a été validé dans le cadre d'une réflexion qui est à l'Agence spatiale européenne. Il y a aussi un autre projet, je crois, qui est un peu plus fou, mais on peut rêver, c'est pour 2025-2030 peut-être, c'est de mettre un ensemble d'Herschel en vol, en formation, et faire de l'interférométrie avec plusieurs télescopes dans l'espace. Alors évidemment, on aura un gain déjà en sensibilité, puisqu'il y aura une plus grande surface collectrice, plus de miroirs, mais on aura un gain prodigieux en pouvoir de résolution, et on aura pratiquement des résolutions comparables à celles d'ALMA au sol, mais dans l'espace.
Et bon, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a, c'est aussi une question de mentalité. Il y a effectivement des gens dont la vie consiste à accompagner ces choses et à faire ces projets. Et moi, je dirais mon horizon à moi pour l'instant, c'est le lancement et la science qu'on va pouvoir faire avec.
C'est un garçon pragmatique, mais ça n'empêche pas de voir.
Ça n'empêche pas de rêver, mais. On a tous ici fait un investissement à plus ou moins long terme sur cette expérience. Et moi, je crois que la première chose que j'ai envie de faire, avant de rêver au successeur de Herschel, c'est rêver à la science que Herschel va nous permettre de faire.
Merci Marc Sauvage, merci Vincent Minier, merci aussi à Anaël Maury, à Hervé Aussel et à Sacha Oni d'être venus nous parler de Herschel avec enthousiasme, passion et clarté. Je dirais bon vol. Merci aussi à Odile Daudet d'avoir enregistré ce programme. On se retrouve pour d'autres aventures et évidemment pour les résultats d'Herschel attendus, on l'espère, dans les mois qui suivront sa mise en orbite. Merci à vous de nous avoir suivi. À très bientôt.